Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Faure, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette émission qui ouvre des horizons économiques. Car aujourd'hui, nous voyageons dans un pays qui, lui-même, diffuse son influence ailleurs dans le monde, inspire même certains par son modèle. Les fameux BTS, ce groupe de musique sud-coréen, les rois de la K-pop, qui depuis quelques années font fureur, notamment chez les jeunes. Sur les réseaux sociaux, certains les présentent comme les nouveaux Beatles. Leur label est coté sur les marchés financiers, valorisé pour des milliards de dollars. On peut encore citer Squid Game, cette série à succès planétaire sur Netflix. Avant cela, le film Parasite, Palme d'Or à Cannes, Oscar à Hollywood ou encore l'inoubliable Gangnam Style, c'était il y a déjà 10 ans. Un soft Power, une vague coréenne qui porte un nom, Hallyu, et qui va bien au-delà d'une réussite commerciale, nous le verrons. Car la Corée fascine aussi pour sa réussite économique d'un pays très peu développé au sortir de la guerre, au début des années 1950. Elle est devenue une puissance majeure avec les fameux chaebol, ces conglomérats moteurs de croissance, des entreprises qui pèsent très lourd à l'international, LG, Hyundai et surtout Samsung, un état dans l'état.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Samsung et ses téléphones moteurs d'une forme de miracle économique qui a ses secrets mais aussi ses faces plus sombres peut-être que nous ne manquerons pas d'évoquer avec nos invités. Je vous les présente, Jimin Park, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sud-coréen. Vous êtes installé en France depuis plusieurs années, docteur en histoire économique contemporaine et en business international. Vous êtes enseignant à Sciences Po, Paris et chercheur à l'Institut de recherche en communication de l'Université nationale de Séoul. La capitale coréenne, justement, nous y appelons Benjamin Joanneau. Bonjour.
Bonjour.
Français, vous y vivez depuis maintenant 26 ans. Vous êtes docteur en anthropologie culturelle, spécialisé en études coréennes, maître de conférences à l'université Hongik de Séoul. Vous êtes aussi chercheur associé au Centre de recherche sur la Corée à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Très vite, en quelques mots, Benjamin Joanneau, comment ça se passe en ce moment avec le Covid en Corée? Chez vous aussi, une flambée des cas. Est-ce que l'activité économique est réduite?
Alors, c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Effectivement, nous avons une flambée des cas qui inquiète les autorités sud-coréennes. Vous savez qu'on avait une sorte de politique zéro Covid jusqu'à récemment. Et à partir de début novembre, on a lancé une politique de vivre avec le Covid qui malheureusement a dû faire machine arrière très très vite il y a quelques jours à cause du variant Omicron. Et donc, nous sommes repassés à des couvre-feux tôt, 9h du soir, et à un nombre très limité pour les réunions publiques et privées de 4 personnes. Donc bien sûr que cela va impacter l'économie. D'ailleurs, un programme d'aide aux PME a été annoncé.
A tout de suite, Benjamin Joanneau. Vous entendrez aussi des reportages avec notre correspondant en Corée du Sud, Nicolas Roca, et avec notre correspondante à New York, Lubna Anaki. Nous verrons pourquoi les produits coréens se vendent si bien à l'étranger. Bienvenue dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, pour réécouter, pour partager, pour commenter, pour suivre l'actualité économique au quotidien, nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, notre compte RFI Écho. Alors voilà, avant de décrypter les raisons de cette histoire d'amour et d'argent entre la Corée et le monde, quelques données d'abord sur ce que représente ce pays sur l'échiquier économique. 10e ou 11e puissance mondiale, mais 7e exportateur. Jimin Park, comment ce pays de 52 millions d'habitants seulement réussit-il à rivaliser avec des voisins régionaux aussi puissants que la Chine, le Japon ou l'Inde ?
Alors, comme vous savez, en fait, juste à côté de la Corée du Sud, bon, il y a le Japon. Donc, déjà, quand on a beaucoup de difficultés financières dans les années 50, le Japon était très, très connu, en fait, avec le succès d'économie mondiale. Alors, ça veut dire qu'en fait, nous, bon, je suis coréen, et puis, si vous connaissez la relation entre la Corée et le Japon, c'est vraiment l'amour et la haine. Hein. Mm-hmm. Donc, bon, je ne cache pas, en fait, nous, on a imité beaucoup de choses japonaises. Donc, en fait, pour nous, il y avait un bon enseignant qui donne le cours. Donc, en fait, c'était facile de faire des choses. Par exemple, le jebol, on dit, en fait, c'est quelque chose de vraiment unique pour la Corée. En fait, ça existait au Japon aussi. Donc, en fait, on a copié. Et puis, le système économique aussi, on a beaucoup copié. Et puis, on voit, en fait, on étudie bien pour savoir à quel point et de quelle était, il y a quelques problèmes au Japon. Et on étudie bien. Et puis, on change pour améliorer la situation, pour produire bons résultats.
Le Japon a beaucoup aidé aussi la Corée par la suite, tout comme les Américains.
Alors, c'est une question assez
Sensible?
oui, sensible parce qu'en fait, il y a beaucoup de Coréens qui sont contre ça. Moi, je vois en fait, c'est le Japon plutôt qui partage les technologies avec la Corée. Parce que en fait, le Japon voit que s'il y a la Corée juste à côté du Japon, en fait, ça aide pour sa croissance économique.
La Corée a aussi bénéficié d'une aide internationale dans les premières années après la guerre, une aide de la Banque mondiale notamment.
Alors, c'est une question intéressante aussi. Alors, si vous voyez ce qui se passe après la guerre, donc en fait, bon, après la Deuxième Guerre mondiale et aussi après la guerre en Corée, alors ça veut dire en fait, c'est pas que la Corée du Sud on a reçu beaucoup de sous, en fait, il y a plusieurs pays autour de l'Union soviétique qui reçoivent beaucoup de sous. Mais pourquoi en fait, c'est la Corée qui a réussi économiquement? C'est ça en fait la question.
Et alors, quelle est votre réponse? Quel est le secret? S'il y a un secret de la réussite?
Alors, je dirais plutôt, c'est la globalisation. Moi, je sais, il y a des gens qui sont contre de ça, mais en fait, c'est ça la raison principale, là, ce que je veux.
La mondialisation a profité plus à la Corée qu'à d'autres pays?
Exactement, exactement. Parce que, vous savez, le marché coréen, c'était petit avant. Ok? Ça veut dire, en fait, pour les entreprises, il y a pas grand-chose à vendre. Et aussi, après la guerre, la Corée était vraiment pauvre. Donc le marché n'était pas bien développé. Donc pour les compagnies, il faut gagner un peu de sous. Et puis c'est pas le marché domestique, mais c'est plutôt le marché international.
On va se tourner vers Benjamin Joanneau à Séoul. Comment elle s'exprime en Corée, cette mondialisation, cette force de l'économie sud-coréenne?
Elle s'exprime sur différents niveaux, bien évidemment. Alors mon regard va être plus sociologique. Je pense qu'il y a eu un changement profond de la société sud-coréenne et bien avant ce que l'on considère être la mondialisation, la globalisation la plus récente. Je dirais qu'à partir des années 60-70, sous l'impulsion du président Park Chung-hee, on a un changement très profond avec une modernisation accélérée et qui affecte pas simplement les infrastructures. Et n'oublions pas, je pense que dans le miracle sud-coréen, il faut intégrer cette dimension très importante du rôle de l'État dans l'économie, ce qui pourrait paraître parfois surprenant pour un pays qui on présente souvent comme une économie libérale, néolibérale, parfois un peu extrême. Le rôle de l'État y a été très important.
Avec des
Donc
liens
ce
très
rôle
étroits avec les milieux d'affaires.
Exactement. Et je pense que si je puis me permettre de rajouter un facteur à l'explication de Jimin Park, ça serait aussi ce lien particulier et toute cette action qui a été une action diverse, peut-être non programmée, mais continue des différents gouvernements sud-coréens à partir de la fin des années 60 et qui ont permis aussi de bâtir non seulement toutes ces infrastructures qui ont donné la possibilité de développer le potentiel industriel que l'on connaît aujourd'hui, et également de thésauriser sur une force plus culturelle et sociologique qui était celle d'une appétence très forte de la Corée ou en Corée pour les études. Et donc cela a permis également d'avoir une population qui est généralement très diplômée, qui est également éduquée et qui a une forte passion pour tout ce qui est innovation et technologie. Je pense que ces éléments sont aussi importants.
La Corée est le deuxième pays de l'OCDE pour les dépenses de recherche, mais aussi dans le domaine de l'éducation.
Exactement. Donc vous voyez, je pense que ce sont deux facteurs qui ont et qui continuent à permettre à la Corée de s'être projetée de cette deuxième place de pays le plus pauvre du monde en 53 à la place où elle est aujourd'hui. Et tout cela, bien sûr, a été un raz-de-marée. Alors, en termes donc pour revenir à votre question sur la globalisation, le raz-de-marée, il est bien sûr sociétal tout d'abord, puisque les vieilles valeurs traditionnelles ont été mises à mal. On a des ruptures des liens traditionnels, des liens sociaux traditionnels, des anciennes solidarités, et donc il faut réinventer une manière de vivre ensemble avec modernisation, urbanisation, occidentalisation également, des modes des pratiques, hein, des modes de consommation, mais aussi des mentalités. Donc ça, c'est un premier niveau sur lequel la globalisation a un effet énorme. Le deuxième effet, je dirais, il est plus simplement intérieur, mais pour un pays qui a eu toujours une attitude un petit peu centripète, pour reprendre l'opposition de Lévi-Strauss quand il était venu en Corée, la Corée devient plus centrifuge à partir des années 80-90, avec donc cette globalisation que nous connaissons, qui a donc permis à la Corée de monter sur la scène internationale avec le symbole des Jeux Olympiques de 1988, et qui a donc permis aussi à la Corée de se voir dans le miroir de cette globalisation et de se voir comme un pays non plus sous-développé, non plus en voie de développement, mais de plus en plus comme un pays développé qui rentre dans la cour des grands. Et tout cela, ça change énormément également pour les jeunes générations, leur rapport avec l'identité nationale.
Quand vous avez parlé à l'instant du pari de l'innovation, et ça va continuer d'ailleurs, hein, puisque la Corée mise beaucoup sur l'intelligence artificielle. On a fait une émission dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs, il y a quelques semaines sur le métaverse, et là, la Corée, par exemple, est très avancée.
Tout à fait. Alors, ça fait partie aussi des choses intéressantes à analyser. Pour moi, en tant qu'anthropologue, je vois les choses sous les deux facettes. À la fois, bien sûr, l'aspect très positif, économiquement parlant, par exemple, au niveau également des potentialités industrielles, et après, bien sûr, d'exportation. Et aussi pour régler le problème de l'emploi qui devient de plus en plus pressant pour les jeunes actuellement. Donc cela représente une planche de salut pour les gouvernements successifs sud-coréens qui essayent de parier sur l'intelligence artificielle, le big data, etc. Après, cela aussi pour moi reflète une tendance que j'évoquais tout à l'heure, à un certain positivisme, voire scientisme, que nous avons quand même beaucoup combattu en Occident à partir même de l'entre-deux-guerres, je dirais, et en particulier de l'après-guerre, et qui en Corée continue à régner sur les esprits avec une approche très quantitative du monde et pas que de l'économie, ce qui va peut-être aussi expliquer certains des problèmes sociétaux que nous pourrons peut-être évoquer tout à l'heure et qui sont reflétés dans ces fameuses séries sud-coréennes dont on a tant parlé récemment.
Et oui, on va en parler. Impossible de comprendre ce modèle sud-coréen sans parler de ces chaebols, ces conglomérats géants gérés par les familles fondatrices à l'origine de la croissance éclair du pays dans les années 70 notamment. Un seul d'entre eux, l'emblématique Samsung, totalise à lui seul 20% de la richesse créée en Corée. Qui sont-ils ? Comment sont-ils apparus et que représentent-ils aujourd'hui dans le pays? Des éléments de réponse avec le reportage à Séoul de notre correspondant Nicolas Roquin.
Voiture Hyundai, téléphone Samsung, écran LG et la Lotte Tower qui dominent le paysage de la capitale sud-coréenne. Ici, les chaebols sont partout ou presque. La Séoul National University est l'une des rares universités prestigieuses à ne pas être aux mains d'une de ces gigantesques entreprises familiales. Park Sang-in y est professeur de gouvernance économique.
Les chaebols ont grossi car ils avaient tous de grandes entreprises dans le domaine de la chimie ou des industries lourdes. Ils ont pris de l'importance et ont eu plus de filiales depuis les années 70. Durant cette période, les entreprises de pièces et de composants n'étaient pas du tout bien développées. Donc les chaebols ont décidé de se doter de leurs entreprises dans ce secteur.
Une diversification de leurs activités favorisée par le dirigeant militaire de l'époque, Park Chung-hee, et ses deux successeurs qui ont octroyé des exemptions fiscales et des aides financières aux chaebols.
Because of the common environment and practice, they have certain...
Du fait d'un environnement commun et de pratiques communes, il y a une forme de culture militaire au sein des chaebols. Mais à travers le temps, notamment du fait de la crise sud-coréenne de 1997, les chaebols ont pris des directions différentes. Par exemple, Samsung et Hyundai Motors, les deux entreprises les plus importantes de Corée, ont des cultures de travail totalement différentes.
Les pratiques ont évolué en partie avec l'apparition des syndicats, même si celle-ci fut très tardive, notamment chez Samsung. C'est seulement en mai 2020 que le dirigeant actuel, Lee Jae-yong, a rompu avec la pratique du groupe qui consistait à ne pas discuter avec les organisations de travailleurs. Chin Yun-sok, président du principal syndicat du groupe.
Le mouvement syndical a toujours été là chez Samsung, mais les personnes à la tête de l'entreprise nous mettaient des bâtons dans les roues. Avant, lorsque tu essayais de former un syndicat, ils prenaient des mesures tellement sévères et mettaient tellement de pression sur ceux qui souhaitaient se syndiquer que certaines personnes se sont même suicidées. C'est pour cela que les employés ne sont pas parvenus à créer un pouvoir syndical auparavant.
Le succès des Chaebol s'est aussi construit sur le sacrifice de ses salariés de la génération de l'après-guerre de Corée. Cette même génération est aujourd'hui la victime d'un système de retraite défaillant. La Corée du Sud a le taux de pauvreté des plus de 65 ans le plus élevé de toute l'OCDE. Nicolas Roca, Séoul, RFI.
Nicolas Roca, que l'on va retrouver dans quelques minutes pour parler justement de ces questions sociales en Corée. Jimin Park. Une économie très concentrée sur quelques groupes. Est-ce que l'économie coréenne est finalement malade de cette dépendance à des entreprises qui parfois sont surendettées?
Alors, si c'est malade ou pas, en fait, le résultat, c'est bien. Si on compare ce qui se passe dans les années 50 après la guerre. Donc, en fait, ça fonctionne bien. Alors, en fait, Chaebol, ça existe dans le monde entier. Ok, ici en France aussi, aux États-Unis aussi, simplement, en fait, le mot, c'est différent. En fait,
mais il y a moins de concentration quand même. Samsung, c'est 20% de la richesse, on a dit, ça n'existe pas même, ni en France ni ailleurs.
Oui, ça veut dire en fait, Samsung est très très grande, parce que comme c'est une compagnie qui exporte beaucoup, qui contribue beaucoup à la Corée du Sud. Donc, je dirais que c'est plutôt positif. Ça veut dire qu'en fait, si on a des compagnies comme Samsung, plusieurs en Corée du Sud, je crois que c'est bien pour la Corée.
Sauf que ça a été évoqué dans le reportage, il y a eu des scandales de fraude fiscale, de pots de vin. Ça, c'est quand même une ombre à ce tableau.
Alors, oui, mais il y en a beaucoup de cas avant. Mais maintenant, en fait, ça a diminué petit à petit. OK. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'était lié avec la relation gouvernement et puis milieu d'affaires. C'est ça, en fait, le problème.
Alors, trop de privilèges ?
Oui, maintenant, oui. Mais en fait, il faut bien comprendre le développement économique de la Corée du Sud. Ça veut dire qu'en fait, le pays était très, très pauvre. Pour bien développer, en fait, on a besoin d'importer beaucoup de choses ailleurs. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin de beaucoup de US dollars. Alors, à ce moment-là, en fait, bon, c'est le gouvernement qui distribue US dollars aux compagnies, aux entreprises, qui est plus efficace que les autres. Donc, ce n'est pas que Samsung ou Hyundai, mais il y a plusieurs entreprises. Et puis, le gouvernement, en fait, compare les entreprises qui sont vraiment efficaces. En fait, ils donnent US dollars avec le taux favorable. Et puis, à la fin, en fait, vous voyez, il y avait quelques résultats complètement différents. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'était la crise financière en 1997. En fait, après, en fait, il y a des compagnies comme Théo qui étaient disparues. Et puis, il y avait maintenant Samsung et Hyundai qui restent.
Cet interventionnisme de l'État dont vous parliez, Benjamin Joanneau, tout à l'heure. Justement, ce rapport entre les Coréens et ces Chaebol, ces grandes entreprises, comment ces scandales ont-ils été ressentis? Est-ce qu'il y a eu des réformes depuis? Est-ce que la relation entre les Coréens et ces entreprises a changé?
Bien sûr, je pense qu'on peut le ressentir dans la réponse même de notre invité, Jimin Park, qui à la fois exprime très bien le rôle de cette Chaebol et qu'il faut relativiser. Nous avons également des conglomérats en France, mais qui exprime une certaine sensibilité par rapport aux critiques que pourrait essuyer ce qui est aussi à la source de du modèle et du succès sud-coréen. Donc on va avoir une attitude double, une attitude à la fois de critique interne, surtout si on est... une des victimes du système, et vous, on a tout à l'heure évoqué avec Nicolas Roca la problématique des syndicats. Il faut quand même remarquer que nous sommes dans un pays où il est effectivement toujours dangereux aujourd'hui d'appartenir aux syndicats. Je peux en parler personnellement puisque il a fallu attendre 2021 pour que les professeurs de la Corée, de toute la Corée, instituteurs, enseignants, professeurs d'université puissent se syndiquer. On a encore donc des problématiques très importantes qui viennent également du pouvoir et du monopole, parce que c'est là le problème. Quand vous parliez des 20% que représente Samsung, nous sommes face à des situations monopolistiques qui sont effectivement uniques. Donc je pense qu'on a une situation complexe où à la fois l'homme de la rue ne peut pas ne pas reconnaître la gratitude, la reconnaissance que l'on doit à ces grands groupes qui font et qui ont fait la Corée, tout en étant également parfois très fâché par ce qui se passe, quitte à descendre dans la rue et à se révolter sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je pense qu'après, les Coréens sont capables de faire front quand, par exemple, le pays ou les Chaebols font l'objet d'attaques à l'extérieur. Et donc le discours peut changer, mais cela ne doit pas cacher le fait que les Coréens eux-mêmes sont les premiers critiques de leur système.
On a commencé à parler de ce monde du travail, Benjamin Joanneau. On parle, vu d'ici, vous allez nous confirmer ou non, d'une surcharge de travail pour les salariés, d'une compétition très intense, d'un taux de suicide très élevé parmi les salariés, d'un culte de la performance. C'est encore vrai, ça?
C'est malheureusement encore vrai. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est un cliché, car on en a assez de parler de la Corée toujours à travers ces termes-là. Et j'aimerais pouvoir vous donner un avis différent vivant ici. Malheureusement, je le constate, et la situation du corona n'a fait qu'empirer les choses. Oui, il y a un mal-être dans l'entreprise sud-coréenne, et je le vois bien avec les jeunes générations qui d'ailleurs essayent de trouver des moyens alternatifs, non seulement parce que le marché du travail s'est rétréci, mais aussi parce que les jeunes générations ne souhaitent pas vivre comme leurs aînés et dans un milieu qui est très anxiogène, il faut l'avouer, et puis qui demande des charges d'horaires de travail très grands avec très peu de marge pour se révolter ou tout simplement pour partager ses problèmes si ce n'est parfois par la culture de l'alcool. Et je pense que les jeunes générations sont de moins en moins capables d'accepter cela, et avec peut-être le bémol que maintenant, comme je le disais tout à l'heure, le marché du travail étant très serré, malheureusement, beaucoup de jeunes sont prêts à accepter des conditions qui devraient être de nos jours inacceptables.
Jimin Park, avec vos yeux de citoyen sud-coréen, comment vous voyez cette situation ?
Alors, ce que Benjamin Joanneau a dit, en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, il a bien observé la société coréenne. Le problème, en fait, ça a bien augmenté avec le président Moon Jae-in. Ça veut dire, en fait, bon, le salaire, ça a bien augmenté. Et puis, il pousse. Donc, en fait, le gouvernement a essayé de minimiser l'heure de travail. Alors, en fait, ça pose beaucoup de problèmes en Corée du Sud. Pour les grandes entreprises qui ont beaucoup d'argent, il n'y a pas de problème pour l'automatisation. Donc, en fait, il y a beaucoup d'automatisation. Ça veut dire, en fait, diminuer le nombre de jobs pour les petites et moyennes entreprises qui n'ont pas beaucoup d'argent. Pour eux, en fait, l'automatisation, c'est vraiment difficile aussi parce que ça coûte cher. Alors, le gouvernement augmente le salaire et aussi diminuer l'heure de travail. Donc, pour les petites et moyennes entreprises, c'est vraiment difficile d'embaucher les gens.
Toujours cette économie à deux vitesses. On va se tourner à nouveau vers Nicolas Roca, notre correspondant à Séoul. On a commencé à parler tout à l'heure du système de retraite sud-coréen, de la protection sociale. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Bruno, on peut dire que le système est encore assez précaire, qui connaît de nombreuses failles, et cela s'explique notamment par le fait qu'il était instauré assez tardivement, une première loi en 1986, puis finalement en 1988. À son début, ici, le système de retraite publique a été très critiqué, peu de personnes ont adhéré rapidement, et c'est une raison de la pauvreté des personnes âgées, un phénomène que j'évoquais dans mon reportage sur les Chaebols. Selon l'OCDE, il serait 3 millions de Sud-Coréens de plus de 65 ans à vivre en dessous du seuil de pauvreté en 2019. Et il est vrai que quand on habite ici à Séoul, il est assez fréquent de voir des septuagénaires, des octogénaires continuer à travailler, que ce soit en tenant des restaurants ou bien en nettoyant le métro ou même pour ramasser des ordures. Donc, en dehors du travail, il leur existe en réalité trois types de revenus pour ces retraités. La pension de base qui varie entre 180 à 220 euros selon la situation familiale. Ensuite, il y a des aides sociales, évidemment. Et puis, des retraites privées. Et puis, le système de retraite sud-coréen risque d'affronter des problèmes de manière assez durable parce que la population sud-coréenne vieillit à un rythme sans précédent. Cette année, les plus de 65 ans représentent 16,5% des un peu plus de 50 millions d'habitants, et ils pourraient représenter 43% de la population d'ici 2050.
Merci Nicolas. Benjamin Joanneau, les jeunes, les personnes âgées, les femmes aussi dans le monde du travail qui ne sont pas forcément reconnues, les travailleurs immigrés aussi, la main-d'œuvre étrangère qui n'est, je crois, pas très bien payée. Ça fait beaucoup d'inégalités.
Beaucoup d'inégalités, effectivement, dans ce pays, qui pourtant essaye de les cacher. On a un rêve, je dirais, dans l'imaginaire sud-coréen, qui est celui d'avoir une forme d'unité. Je crois que l'idée du un, d'être un, est très importante. Cela donne aussi des choses très positives, bien sûr, dans la capacité de mobilisation lors de problématiques communes. Et en même temps, ce rêve se heurte à une réalité qui est toute différente, qui d'ailleurs nous amène souvent à dire les Coréens et à ne pas voir que dans ce petit pays qui a quand même 50 millions d'habitants, il y a énormément de disparités sociologiques. Alors c'est important de voir effectivement que on a un rapport complexe, je dirais, à l'altérité en Corée et il y a une sorte de tendance à essayer de suivre la norme et cela fait partie du poids qu'on évoquait tout à l'heure, par exemple, dans le monde du travail. Ce qui veut dire que toute personne qui sortirait d'une forme de norme risque d'avoir des difficultés et de tout faire pour cacher cette différence. Alors là, je ne parle pas uniquement des étrangers, bien évidemment, pour lesquels il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour arriver à une situation de société vraiment multi-ethnique et culturelle à la fois. Il y a également des problématiques, vous l'avez évoqué, dans l'égalité homme-femme. C'est normal, nous sommes dans une société traditionnellement plutôt très patriarcale et qui a... depuis le début du XXe siècle, beaucoup de mal à passer dans un modèle un petit peu plus égalitaire. Et je pense que c'est aussi une des sources au niveau de l'imaginaire de beaucoup de ces produits culturels que nous voyons, que nous consommons, dans lesquels nous voyons beaucoup de violence. Et cette violence, c'est aussi celle qui est ressentie par les hommes coréens mis à mal dans leur masculinité par tous ces changements de la modernité. Et donc c'est également un sujet très important, très important du point de vue des femmes, mais aussi au niveau symbolique du côté des hommes, puisque cela aussi nous amène toutes sortes de représentations qui sont devenues très typiques de la Corée du Sud. Hein, je parle des films, des séries, etc.
Eh bien justement, inégalité et violence, on va en parler tout de suite dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs. Écho d'ici, écho d'ailleurs à la mode sud-coréenne cette semaine avec les chercheurs Jimin Park, ici dans nos studios à Paris, et Benjamin Joanneau en ligne de Séoul. Squid Game, cette série télévisée dont on parle tant depuis quelques semaines, quelques mois, l'histoire de personnes en difficulté financière et qui risquent leur vie pour une grosse somme d'argent. Jimin Park, cette série télé, c'est aussi une illustration des inégalités sociales en Corée du Sud. Certains disent l'enfer du capitalisme.
Alors,
je vous provoque.
Non, j'aime bien votre provocation. Alors, c'est intéressant parce que, en fait, avec le succès de Squid Game, en fait, c'est pas que vous qui parlez de ça. En fait, ce sont plutôt les journaux internationaux comme Washington Post, Wall Street Journal, en fait, tout le monde dit, en fait. Alors, Squid Game, ça montre l'inégalité en Corée du Sud. Mais ce qui est très important, en fait, l'inégalité, au niveau international, si on compte coefficient de Gini, alors qui montre l'inégalité, ok, alors c'était produit par OCDE, donc en fait c'est bien
les chiffres officiels,
exactement. Alors si on compare coefficient de Gini avec les autres pays, en fait au top il y a les États-Unis, après c'est le Royaume-Uni et puis Israël et puis Corée et Japon. Donc ça veut dire qu'en fait l'inégalité au Royaume-Uni et puis aux États-Unis, c'est pire que la Corée du Sud. Mmh. Alors ça veut dire qu'en fait, bon, simplement, la Corée produit une série qui était très à la mode dans le monde entier. Et puis on parle de Squid Game, je crois que c'est un peu...
Exagéré.
Exactement, c'est ça, voilà. Alors ce qui est vraiment intéressant, en fait, Bon, il y a des gens qui regardent bien les séries coréennes. Ils ont dit toujours, ah oui, en fait, ce sont des séries pour les femmes, parce qu'ils parlent toujours comme l'histoire d'amour, la famille, tout ça. Donc, en fait, à ce moment-là, on a parlé de comment le problème, c'est simplement l'histoire de l'amour. Et puis, normalement, c'est le prince qui est riche, et puis la femme pauvre et gentille, tout ça. Et maintenant, avec le grand succès de Squid Game, on parle de l'inégalité. Je trouve que c'était trop exagéré.
Benjamin Joanneau, Squid Game, une image faussée de la Corée du Sud ?
Écoutez, je voudrais rebondir sur ce que dit Jimin Park, parce que il a tout à fait raison. Je pense qu'on a trop tendance à vouloir regarder les œuvres de fiction en général, et pas que de la Corée, comme toujours un miroir direct de nos sociétés. Une œuvre de fiction, c'est une œuvre de fiction. Donc il faut essayer de l'analyser comme telle. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est effectivement en lien avec une forme de complexe culturel sud-coréen qui est particulier à la Corée et qui est effectivement transcrit dans ses séries et dans ses films. Le cinéma sud-coréen est très connu par exemple pour sa violence. Après la série Squid Game, Netflix a enregistré des records pour une autre et nouvelle série qui s'appelle Hellbound, qui est d'une violence assez avancée. Est-ce que ça veut dire que la société sud-coréenne est aussi violente que ses séries ? Non, bien sûr que non. La violence symbolique y est peut-être en revanche très forte. Je parlais tout à l'heure de la dissolution des liens sociaux traditionnels, des liens de solidarité qui étaient très très forts dans le passé et qui sont venus à néant à l'époque plus récente. Je pense que ça fait partie de ces violences qui font qu'on a un isolement grandissant des personnes, en particulier des personnes âgées que nous évoquions, qui entraînent certainement des formes de désespoir et des formes extrêmes de réaction à cet isolement. Donc je pense qu'il faut faire attention à cette tendance que nous avons de vouloir lire à travers les produits culturels sud-coréens nos propres problèmes, et en fait en ignorant un petit peu ceux de la Corée du Sud. Donc je pense qu'il faut se distancier de cette tendance pour essayer de voir un petit peu plus près au niveau purement sociologique ce qui se passe vraiment.
Ce qui est sûr, Nicolas Roca, c'est que Squid Game, c'est un formidable succès commercial. D'un point de vue marketing, comment expliquer ce succès ?
Alors si on regarde vraiment d'un point de vue marketing, il y a déjà une esthétique qui est extrêmement propre à cette série, des codes qui lui sont propres, qui ont été repris massivement sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vraie vie. Ici, il suffisait de se promener dans les quartiers festifs durant Halloween pour voir que la tendance était vraiment au déguisement des personnages des gardiens dans Squid Game, le fameux costume rouge avec le masque. Après, ce succès hors norme, il n'est pas uniquement dû au hasard, hein. Les séries coréennes sont populaires depuis bien longtemps, les invités l'ont souligné, mais aussi il a été pensé par Netflix qui a gagné le gros lot avec Squid Game en ramassant pratiquement $1 milliard de profits grâce à la série, et l'ampleur de ce succès a largement dépassé évidemment les espérances de la plateforme. Le budget pour la série n'était que d'une vingtaine de millions de dollars, mais elle a misé largement l'entreprise américaine sur les contenus sud-coréens. Netflix a investi $500 millions sur des productions sud-coréennes dans la seule année 2020, et Benjamin Joanneau l'a dit, il y a un nouveau succès, alors de moindre ampleur que Squid Game, mais tout de même, qui est déjà en ligne depuis mi-novembre, une série dystopique très violente, Hellbound.
Des succès dans le domaine culturel que l'on peut voir aussi dans la musique avec les boys bands, mais aussi les girls bands, hein, ces groupes de musique féminins, ce sont aussi les jeux vidéo. Nicolas, lorsque l'on évoque la vague culturelle sud-coréenne, on parle aussi souvent du rôle de l'État. L'État complice
Alors,
de
oui,
ça,
a raison.
Ou l'État qui favorise ça.
Alors, l'État qui, en tout cas, l'a favorisé pendant longtemps lors de son émergence à la fin des années 90, même au début des années 90, puis dans les années 2000. Mais il ne faut pas limiter la Hallyu, la vague culturelle coréenne uniquement à cette influence de l'État, parce que les gouvernements successifs ont beaucoup souhaité surfer sur les différents succès culturels avec un penchant assez nationaliste dont beaucoup de gens se moquent d'ailleurs ici avec le fameux K qui veut dire Korean, Coréen en anglais devant K-pop, K-drama, K-beauty pour rappeler l'origine de la production. C'est un peu un des rares pays à faire ça. Alors cette vague culturelle, elle a aussi été contrôlée tout de même au début avec une liste noire hein, des artistes d'opposition, mais la situation aujourd'hui, elle a énormément évolué hein, avec une plus grande autonomie, notamment du côté de l'industrie cinématographique mais aussi ailleurs. Et ce qui est assez intéressant à noter, c'est que si l'on regarde certaines œuvres à succès récentes comme Squid Game, mais on peut aussi parler évidemment du film Parasite, ce sont des œuvres qui sont assez critiques et qui mettent en avant la dureté de cette société sud-coréenne. Alors à laquelle on s'identifie aussi en plaçant aussi les propres inégalités de nos sociétés. Mais ces critiques, elles placent aussi les autorités dans une situation assez compliquée parce qu'elles sont à la fois très fières de ce succès, mais évidemment bien moins de la réalité que ces œuvres dépeignent.
Ça fait venir des touristes aussi, des centaines de milliers de touristes, je crois. Merci Nicolas. Benjamin Joanneau, ça leur plaît aux Coréens ce succès de Squid Game ou ça leur déplaît ?
Écoutez, je pense que je ne peux pas parler à la place de tous les Coréens. Ce que je vois, c'est que ce que décrit Nicolas est tout à fait vrai. Je pense qu'il y a une sorte d'ambiguïté entre l'image que l'on essaye de transmettre à l'étranger dans le nation branding, qui est très important. Ça fait partie de cette politique de soft power de la Corée, qui était de propager une image très lissée de la Corée et de la société coréenne, et que des œuvres telles que celle-ci, mais Parasite de Bong Joon-ho et d'autres encore, donne une image qui n'est peut-être pas en ligne avec ce que le gouvernement ou les institutions auraient attendu. En même temps, on a toujours une immense fierté en Corée. Hein. On a toujours, je pense, une revanche à prendre sur toutes les générations un peu âgées et sur cette histoire dramatique du XXe siècle. Donc, on est toujours content de voir la Corée à l'actualité internationale. Cependant, il faut effectivement relativiser. Les Coréens ont adoré Squid Game. Ils sont passés très vite à autre chose, de la même que BTS n'est pas nécessairement le groupe le plus écouté par les jeunes Coréens. Donc vous voyez, il faut aussi voir que la consommation de ce que l'on appelle la Hallyu, la vague coréenne, n'est pas la même en Corée qu'à l'étranger. Et donc cela nous invite aussi à relativiser l'importance de cette série ou d'autres produits culturels dans le pays lui-même.
Jimin Park, d'un point de vue économique, c'est tout de même un nouveau relais de croissance pour l'économie sud-coréenne.
Exactement. Nicolas Hoca a déjà dit, en fait, on a reçu beaucoup d'argent de Netflix. Donc, en fait, avec beaucoup d'argent de Netflix, en fait, il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises qui peuvent produire les séries plutôt intéressantes. Donc, c'est vraiment aidant, en fait, la Corée. Autre chose, en fait, bon, comme vous avez déjà évoqué, BTS, donc en fait, ils font beaucoup de concerts ailleurs, donc en fait, ça aide beaucoup économiquement la Corée du Sud. Et aussi, les autres séries et les cinémas aussi, en fait, ça aide économiquement.
Et objectif économique et géopolitique aussi pour exister sur la scène mondiale. Ça donne aussi une importance à la Corée du Sud.
Exactement, exactement. Alors, surtout, c'était lié avec, en fait, bon, puisqu'il y avait la vague coréenne, donc en fait, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien la Corée du Sud maintenant. En fait, une fois que vous connaissez la Corée, en fait, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de gens qui veulent bien connaître la Corée mieux qu'avant. Donc, en fait, maintenant, il connaît bien la relation avec le Japon, Corée, et puis Chine, la Corée. Donc, en fait, plutôt, en fait, il devient plus sensible sur la Corée. Puis, il partage une sorte de sentiment coréen. Donc, en fait, ils sont plutôt en faveur de la Corée du Sud. Donc, en fait, c'est vraiment aidant, oui.
Benjamin Joanneau, pour rebondir là-dessus, comment est-ce qu'on voit ça en Corée du Sud, cette nouvelle importance donnée au pays dans un contexte régional qui est particulièrement compliqué en ce moment? Il y a ce grand voisin chinois qui peut être vu comme dangereux, mais qui est aussi un partenaire commercial absolument indispensable. C'est le premier client, c'est le premier fournisseur de la Corée.
Tout à fait, et c'est aussi un fournisseur qui n'hésite pas à, par exemple, interdire les films sud-coréens quand il y a quelque chose dans la politique sud-coréenne qui lui déplaît, comme le déploiement du programme THAAD il y a quelques années. Donc effectivement, les produits culturels eux-mêmes de la Korean Wave peuvent servir de levier dans les relations avec la Chine. Je pense que la Chine, comme le Japon, sont certainement amers de voir que eux n'arrivent pas à développer un vrai soft power, alors que la Corée a réussi de manière éblouissante et continue de le prouver. Donc c'est effectivement une force pour la Corée. C'est aussi une force qu'elle s'est repositionnée, non pas simplement sur la scène mondiale, mais particulièrement en Asie de l'Est et du Sud-Est, et avec un talent très particulier qui a été celui qui est décrit par deux auteurs français qui viennent de publier un livre passionnant sur la Korean Wave, Vincenzo Cicchelli et Sylvie Octobre, et qui parlent, eux, de sweet power pour décrire le soft power de la Corée, c'est-à-dire une sorte de pouvoir qui passerait par une forme de douceur, c'est-à-dire la Corée ne paraît pas menaçante pour les pays et les consommateurs de produits culturels extérieurs à la Corée, et que parce que ce n'est pas un pays qui a un passé impérialiste à la différence des États-Unis, enfin, évidemment, on est d'accord sur la définition d'impérialiste pour les États-Unis, de l'Europe pour la plupart des pays européens et du Japon en particulier. Ce qui permet à la Corée, si vous voulez, de capitaliser sur une image de suite. Alors bien sûr, on est très loin de Squid Game ou de Hellbound. Là, c'est plus peut-être ce que véhiculent les groupes de K-pop et ce genre de produits-là. Toujours est-il que ce sweet power permet à la Corée d'avoir des relations très particulières avec le Vietnam, avec l'Indonésie, avec Taïwan, et ce que n'arrive plus à faire le Japon ou plus difficilement la Chine. Donc je pense qu'il y a effectivement une confiance en soi qui est renouvelée.
C'est aussi vu de l'étranger le gentil du Sud face au dangereux du Nord, de Pyongyang.
Tout à fait. Et ce que les auteurs que j'ai évoqués tout à l'heure nous rappellent, c'est qu'il ne faut pas se laisser prendre dans ce miroir aux alouettes, car la Corée du Sud serait la 6e puissance militaire mondiale, alors que la Corée du Nord n'est que la 25e. Mmh. Donc il ne faut pas croire complètement ce discours de nation branding. Cependant, je voudrais juste terminer sur cette question en rappelant, puisque vous parliez de l'actualité de la Hallyu, je voudrais rappeler que la Hallyu, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'elle est effective et que le succès des produits culturels sud-coréens est énorme, tout d'abord dans la région asiatique. Ça a commencé environ en 1999. Donc il faut imaginer que les jeunes dont on parlait tout à l'heure sont nés dans un monde dans lequel la Corée était déjà au top. Et ils ont pu se voir dans les yeux des sud-est asiatiques, mais également des occidentaux quand ils voyageaient à l'étranger. Ils ont pu se voir avec un regard très différent de celui de leurs parents. Donc je pense que c'est très important aussi pour comprendre la nouvelle génération, c'est de comprendre qu'ils sont nés avec la Hallyu, c'est-à-dire avec cette confiance en soi par rapport à ces produits culturels qui suscitent tant de désirs à l'étranger.
Et d'ailleurs, il n'y a pas que les produits culturels. On va le voir à New York avec ce reportage pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de notre correspondante Lubna Anaki.
Au cœur de Koreatown, entre une boutique de souvenirs et un restaurant, le plus ancien magasin de produits de beauté asiatique de New York tient sur à peine quelques mètres carrés. Le long du mur, des milliers de produits importés de Corée du Sud.
J'ai pris un masque en gel et une crème solaire.
Liz est une cliente fidèle. Elle a découvert et adopté les produits coréens il y a 5 ans.
Les crèmes solaires coréennes sont tellement meilleures que les crèmes américaines.
Lorsque ce magasin a ouvert en 2012, les produits coréens étaient encore inconnus des Américains, comme l'explique Winnie Zong.
Au début, nos clients étaient surtout des gens qui connaissaient déjà ces produits. C'était surtout des Asiatiques. Aujourd'hui, c'est des gens de partout. Ils viennent du Brésil, parfois même de France. C'est formidable.
Une attractivité qui, selon elle, est due notamment au succès de la musique et du cinéma coréen.
Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un feuilleton coréen, mais les publicités pour les produits de beauté sont partout, au point où c'est difficile de ne pas se dire « Ah, j'ai envie d'essayer ».
Et cet effet ne touche désormais plus seulement les produits de beauté. La sortie de la série Squid Game, par exemple, a permis à certains de surfer sur son succès mondial. À quelques mètres de la boutique de Winnie Zong se trouve Moshi Donuts. Depuis quelques mois, le Dalgona a fait son apparition sur le menu. Une petite boîte en métal renfermant des formes géométriques à base de sucre et de bicarbonate de soude. Tout comme dans Squid Game, les clients peuvent s'amuser à découper la forme à l'aide d'une épingle.
On voulait essayer parce qu'on l'a vu à la télé, mais on n'a pas réussi à le découper. C'est plus difficile qu'on pensait.
C'est une bonne idée. Ça met en avant la série et le travail du chef. Je vais prendre un donut pour mon ami et le Dalgona pour moi.
Pour Anna Yoon, qui gère ce café, le Dalgona est un succès.
En une journée, on en vend plus de 200. Aujourd'hui, un client en a pris 20 pour les offrir à tous ses amis.
À New York, le quartier de Koreatown était déjà une institution. Mais avec ces nouvelles tendances, il devient un arrêt incontournable, notamment pour les touristes. Un des restaurants du quartier a récemment organisé une soirée spéciale inspirée entièrement de Squid Games. Plus de 180 tickets ont été vendus en quelques heures.
Reportage de Lubna Anaki à New York, Jimin Park. Quand on est coréen et qu'on vit à l'étranger, c'est votre cas, aujourd'hui c'est très facile de trouver des produits de votre pays.
Exactement. Ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est la comparaison entre ma mère et puis ma femme. Ma maman, en fait, elle préfère les produits de beauté étrangères. Par exemple, Dior ou bien Chanel, c'est mieux que les produits coréens. Mais ma femme, c'est complètement différent. Ça veut dire en fait que bon, les entreprises coréennes étaient en compétition avec les entreprises internationales. Donc pour bien vendre les produits en Corée du Sud, ils doivent développer les produits de qualité en comparaison avec les produits internationaux. Donc en fait, ça aide beaucoup. Et aussi en fait, le prix, ça doit être moins cher que les produits internationaux en Corée du Sud. Et puis, avec le succès des séries coréennes et puis le film, et bien évidemment, petit à petit, en fait, ce sont des consommateurs internationaux qui reconnaissent la qualité des produits coréens.
Benjamin Joanneau, est-ce que à Séoul et dans le pays, est-ce que les produits de beauté coréens ont remplacé les marques de luxe françaises ou d'autres pays ?
Non, ils ne les ont pas remplacés parce qu'en fait, ce que dit Jimin Park est tout à fait vrai. Hein, on a aussi un phénomène générationnel. Cependant, la capacité hein, de distinction sociale des produits, par exemple, de luxe français ou des produits de luxe étranger reste très fort. Il n'y a pas pour l'instant de marque de haut luxe coréen pour les produits de beauté et de comex cosmétiques, par exemple, ce qui fait que cette dimension de distinction ne va pas être une valeur ajoutée pour les produits coréens. Cependant, les jeunes consomment énormément ces produits, mais c'est vrai que l'on a pu revoir dans les années très récentes des grands groupes français qui s'inquiètent effectivement de l'émergence de ces cosmétiques sud-coréens, de leur qualité et surtout de leur prix bas pour la qualité, qui fait qu'ils rencontrent un énorme succès. Et puis c'est aussi une consommation symbolique, parce que quand on met un masque sud-coréen sur son visage, on ne fait pas simplement un soin de beauté, on consomme aussi ce rêve coréen que véhiculent tous ces produits. Et ces produits sont d'ailleurs attachés à d'autres produits, puisque en fait le modèle aussi du succès sud-coréen, surtout pour la Hallyu, c'est le fait d'avoir une forme d'intégration horizontale, hein, où on a un package culturel que l'on achète. Quand on achète un masque de beauté, on va aussi acheter en même temps, par exemple, le produit qui est consommé, soi-disant, par les chanteurs de BTS, etc., etc. Donc en fait, musique, parfois films, séries, bandes dessinées, produits de beauté, tout, et même nourriture, vous l'avez vu tout à l'heure avec le Talgona à New York, tout peut aller ensemble,
crypto-monnaie
et
même.
C'est aussi une des forces. Et crypto-monnaie, donc vous voyez, tout peut être mis comme ça dans une sorte d'intégration qui fait la force aussi de ce système.
La Corée du Sud, de plus en plus intégrée avec le reste du monde. Juste un mot, une déclaration il y a quelques jours d'un responsable du gouvernement sud-coréen. Nous voulons renforcer la coopération avec l'Afrique dans le domaine des ressources naturelles. Être prêt à travailler avec le continent africain en ce qui concerne les chaînes d'approvisionnement mondiales. Ça pourrait faire l'objet d'une autre émission. Merci à vous deux pour votre connaissance de la Corée du Sud que vous nous avez fait partager. Jimin Park, enseignant à Sciences Po Paris, chercheur à l'Institut de Recherche en Communication de l'Université Nationale de Séoul. Benjamin Joanneau, maître de conférence à l'Université Hongik de Séoul. Merci à Nicolas Roca, notre correspondant. Guillaume Munier, notre réalisateur. On va se quitter en musique avec le Girls Band Twice. Elles sont 9 filles et elles sont vraiment à la mode, elles réussissent pleinement dans le monde actuel. Cette émission est à partager et à réécouter sur RFI.fr, sur Facebook et Twitter, RFI Echo. À la semaine prochaine pour revenir sur l'ensemble de l'année 2021, très mouvementée sur le plan économique, vous serez sans doute d'accord avec moi. Bonne journée ou bonne soirée, portez-vous bien.
À l'heure sur RFI.